carnet de campagne. Bonjour, les carnets de campagne sont nés, pour ainsi dire, en même temps que le concept de démocratie participative, en tout cas une période où il commençait à entrer dans le langage commun. Depuis cette période, il y a bientôt 12 ans, des expériences de démocratie locale ont été menées. Certaines se sont affadies d'elles-mêmes, d'autres survivent à l'échelle d'un quartier ou d'un village. Parler démocratie, c'est faire dans le sens complet du mot de la politique, c'est-à-dire partager les affaires de la cité, de la société, c'est contribuer à mener collectivement des actions au profit du bien public et c'est proposer à chaque membre de la communauté, quelle que soit sa taille, de participer aux décisions qui vont l'animer. J'ai d'emblée été intrigué par un essai, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, qui interroge la démocratie de nos jours, celle qui a engendré une lassitude entre autres et qui donne ici par ce guide des clés pour entrer dans le cercle de la décision et non de la soumission. Ce livre s'intitule « Guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale, la démocratie vous appartient » en sous-titre. C'est pas un texte militant incitant à la bravoure ou à la résistance, mais c'est simplement une invitation à l'action citoyenne. Et on le doit à une personne qui a travaillé de nombreuses années dans les administrations des collectivités locales et territoriales. Il s'appelle Christian Proust et il est notre invité de ce mercredi.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Christian Proust, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand, merci de m'avoir inscrit dans vos carnets.
Vous êtes en duplex depuis France Bleu Poitou, on salue nos confrères. Et vous êtes auteur d'un livre qui vient de paraître, c'est le guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale, sous-titré « La démocratie vous appartient » aux éditions Rue de l'Échiquier. Vous êtes parti de votre expérience politique, vous avez été un des hommes de l'ombre d'un conseil départemental. Alors je ne sais pas si c'est dans quel département vous étiez, et puis vous avez essuyé les plâtres sur une liste citoyenne qui ne vous a pas été favorable dans le cadre d'élections municipales.
C'est ça, enfin elle n'a pas été favorable, effectivement, puisque nous n'avons pas été élus, mais je crois qu'elle a permis effectivement de faire entendre des propositions sans doute très différentes de celles de la nomenclature habituelle.
Pendant vos longues années auprès de maires, de présidents, de conseils départementaux, vous avez constaté cette distance entre les citoyens, comme on dit maintenant, on disait le peuple, et les élus.
À partir du moment où mon action et mon travail se situaient dans un département rural, je dirais les élus du monde rural ont néanmoins les pieds dans les bottes et les bottes sur le terrain. Néanmoins, ils sont tous imprégnés par un système politique, par des méthodes, par des pratiques surtout politiques, qui font que aujourd'hui, eh bien, ça suscite de la part de beaucoup d'électeurs beaucoup de méfiance et sans doute même de perte de confiance. Et c'est vraiment avec cette idée de faire un livre pour redonner envie à des électeurs qui continuent à s'intéresser à la politique, mais qui fuient les appareils. Et qui fuient peut-être même aussi leur propre engagement.
Vous parlez d'une aristocratie républicaine, c'est-à-dire que pour être élu, ben, il faut déjà avoir été élu et que ça devient presque un métier, une professionnalisation, et qui bloque la courroie de transmission démocratique à laquelle on aspire normalement.
Ah, je crois que c'est vraiment le problème majeur, cette idée que l'on pourrait, pour être élu, que l'on devrait faire un métier autour de cette action-là. Mmh. On voit bien que ce sont toujours les mêmes réseaux, les mêmes idées, les mêmes formations, et que l'on accueille très peu, voire pas du tout, et même qu'on les rejette, les idées neuves, les personnels nouveaux qui veulent s'investir pour le bien commun.
L'implication de chacun dans la vie politique, c'est une implication qui ne peut se faire d'emblée qu'à l'échelle locale.
Ce que je crois, c'est qu'on peut pas demander à des gens de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, les modifications des pratiques politiques ne se fera pas par le haut. Mmh. Donc, ce que je crois, c'est qu'effectivement, si les citoyens veulent changer, s'ils veulent réparer la démocratie dans laquelle nous sommes, eh bien, il n'y a pas 40 solutions. Il faut y aller, il faut s'investir. Et c'est par l'implication locale, par les prochaines municipales, si je peux être très direct, que l'on on peut essayer d'infuser entièrement l'organisation politique française, car après tout, ce sont aussi les élus municipaux qui vont élire les sénateurs et ainsi de suite.
Ouais. Votre livre, Christian, est quasiment un guide d'éducation civique. On devrait le proposer à tout un chacun parce qu'il nous rappelle quand même les nouvelles orientations et en particulier les prérogatives de chaque instance. Et quand on parle d'échelle communale, la commune, pardon de le dire, mais c'est un constat, a de moins en moins de missions, a de moins en moins de responsabilités. C'est-à-dire, le développement économique échoit à la communauté de communes ou à la région.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, et je ne suis pas sûr que ça soit extrêmement digeste pour les concitoyens en ce moment. D'autant que on a une organisation en France qui est 37 000 communes, vous en avez 60% de mémoire, qui ont moins de 400 habitants. Mmh. Donc, quel est le pouvoir réel de ces petites communes? Pratiquement nul. Si vous demandez aux habitants de faire disparaître leur commune, ils s'en offusquent terriblement. Donc, comment on fait? Eh bien, il y a des formules. Effectivement, dans le livre, j'essaie d'appuyer un petit peu sur certaines possibilités. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas de regrouper une multitude de communes pauvres dans une communauté de communes pour faire du développement économique, surtout si vous donnez ce pouvoir-là aux représentants de la ville-centre, ce qui établit un déséquilibre toujours très difficile à vivre pour tout le monde et sans doute pas très efficace en matière de développement.
Christian Proust, invité des carnets de campagne depuis France Bleu Poitou. Christian, auteur de guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale, rue de l'Échiquier. Après votre expérience auprès de présidents de départements et de maires, vous témoignez d'une réalité aujourd'hui et d'un besoin aussi même. C'est la possibilité d'associer les citoyens à la gestion de la cité. Vous donnez des exemples concrets dont on a déjà parlé, de démocratie participative, parce que c'était un slogan longuement utilisé puis qui a tendance à disparaître aujourd'hui. C'est l'exemple dans la Drôme, le célèbre de Saillance. Est-ce vraiment une grande réussite? C'est là où on a des doutes quand même.
Alors moi, je n'ai pas de doute parce que je suis allé les voir non seulement une fois, mais j'ai repris contact récemment pour avoir un état de la situation, si j'ose dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de modifier profondément les règles du jeu démocratique local. Certes, c'est complexe, certes, c'est fatigant sans doute pour les élus, mais leur résultat est pas discutable. Il y a 30% de la population qui s'occupe des affaires publiques, ce qui laisse quand même rêveur par rapport à d'autres collectivités.
Oui. Après, on en revient au discours qu'on a aujourd'hui sur les compétences. Vous avez vu un exemple, donc depuis l'année dernière, les dernières élections, hein, une nouvelle majorité qui s'est constituée en partie avec des personnes issues de la société civile. Mais on a répliqué assez rapidement, disant « Oui, mais regardez, elles sont incompétentes, elles ne connaissent pas la gestion du pouvoir exécutif et on voit beaucoup de maladresse. » Alors finalement, où est l'aiguille doit être positionnée à quel endroit pour trouver l'équilibre?
Il y a énormément d'élus qui sont élus depuis 2, 3 ou 4 mandats qui disent « je deviens de plus en plus efficace ». Donc, ce qui semble justifier effectivement que l'on renouvelle les mandats, qu'on les multiplie. Je ne crois pas pour ma part qu'il faille confondre le rôle de technicien et le rôle d'élu. Et autant je ne suis pas certain que changer quelques députés, ça va bouleverser le système français, autant je crois vraiment que renouveler avec des gens qui apporteront des éclairages complètement différents, je suis certain que ça ne sera pas une difficulté, au contraire, pour notre société. Enfin, quand même, rendons-nous compte, les députés viennent d'être élus avec presque 60% d'abstention. Ça veut dire qu'un député dans sa circonscription, il a été élu dans le meilleur des cas par 25 ou 30% de ses électeurs. On voit bien qu'il faut faire quelque chose. Et ce qu'il faut faire, c'est précisément changer ce qui détestait le plus par les électeurs. Ce sont les pratiques politiques dont on parlait.
Et j'en reviens donc
et notamment le cumul des mandats.
Et Christian Proust, j'en reviens donc à cette question, parce qu'elle se pose aussi dans une économie sociale et solidaire, dont on vante très souvent les mérites. mérite, avec quelques questions et quelques restrictions, c'est quelle échelle pour un véritable mandat d'implication, de sincérité, de transparence, de relocalisation de l'emploi, d'audace aussi à l'égard des créateurs locaux. Je dis locaux, c'est-à-dire il y a déjà la solution, c'est que l'échelle reste locale et communale.
Il me semble que à partir du moment où les compétences ont été distribuées et que la compétence économie est attribuée à une communauté de communes, ça ne me semble pas être une hérésie que ça soit à ce niveau-là si les communes reposent elles-mêmes sur une organisation qui fait une liaison forte avec les citoyens, donc qui avec les besoins de la population, et si les communes sont relativement équilibrées les unes par rapport aux autres pour que on soit sur une organisation horizontale et non verticale comme trop souvent, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune tutelle de grosses villes sur les autres communes pour penser le développement économique. Vous voyez, dans mon livre, j'ai essayé pas simplement d'apporter des réponses pratico-pratique pour aider des gens à se lancer aux prochaines élections municipales, mais aussi de leur donner envie. Et pour leur donner envie, j'ai pris des exemples concrets, je suis allé voir des gens qui avaient des utopies et puis qui les ont véritablement transformées en réalité. Et alors, il y a un sujet qui est très actuel en ce moment, qui est la revitalisation des centres-villes. Je suis allé voir Oudan, et à Oudan, vous avez 3500 habitants, 120 commerces, pas une vitrine vide. Mais comment ont-ils fait? Je suis allé voir, et la première des choses qu'ils ont faites, c'est de s'entendre sur un plan stratégique pour l'ensemble des communes de la communauté, pour organiser l'emploi, organiser le développement commercial et industriel.
Vous entreprenez actuellement un tour de France citoyen, en particulier dans les Deux-Sèvres. Les dates à venir, le 7 mars à Pompère, le 26 avril à Thouars, le 7 juin à Niort. Et puis je dis à nos auditeurs, auditrices, qu'il y a un lien à notre page qui va s'afficher avec votre site en complément de ce guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale, rue de l'Échiquier. Merci Christian Proust.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Et je profite de cette parenthèse dans la semaine du Gard aussi pour vous annoncer un nouveau coup de pouce. La lettre est signée par Agnès, dont le frère vient de disparaître tragiquement, alors que celui-ci était l'unique fournisseur en viande bio d'une AMAP des Vosges. Et afin que cette production ne disparaisse pas, elle aussi, notre correspondante lance un appel aux candidats potentiels, aux candidates potentielles, à une reprise de l'exploitation. Elle est baptisée la Fermette, située entre deux eaux, au cœur des montagnes vosgiennes, avec une vue dominant la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Elle est exploitée en production bio, avec un élevage de vaches vosgiennes et de brebis. Elle a également des activités classe découverte et classe verte. Elle peut recevoir jusqu'à 50 enfants. Elle bénéficie pour se faire d'un agrément académique. Il y a une fiche descriptive sur nos pages d'émission à lire, qui est dans le réseau Bienvenue à la ferme. Vous avez la description de cette Fermette, comme elle s'appelle. Et puis, nous tenons, si vous le voulez, à votre disposition l'adresse électronique d'Agnès, notre correspondante. Et puis, je vous invite aussi, si vous êtes dans l'Ain ou à proximité en pays de Gex, voire dans les communes limitrophes en Suisse, au 13e festival du film vert, le cinéma pour un futur durable. Celui-ci traverse une soixantaine de villes de Suisse et de France jusqu'au 15 avril et il s'arrête en particulier à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche inclus à Ferney-Voltaire grâce à l'association Eco pratique. Cette association pour but le partage entre particuliers d'expériences écologiques et il organise des cafés d'information mensuels baptisés les Cafés Verts. Le programme du festival est à festivaldufilmvert.ch, on est en Suisse, et puis l'association de Ferney-Voltaire, c'est eco-pratique.org. Mais pareil, hein, ça apparaît nos pages émissions. Et puis comme j'ai encore 40 secondes, entre le 19 et le 23 mars, nous serons dans le département de Charente, mais à cette date l'événement Cinémaction organisé par Terre des Hommes à Cognac sera terminé. Donc je mentionne ce festival qui se tient depuis 13 ans au début mars et pendant une semaine, il propose des films aux scolaires, aux enseignants et aux parents autour des droits de l'homme. Cette année, c'est jusqu'au 12 mars. Le thème est l'égalité sociale des femmes et des hommes, sujet d'actualité. Ce soir, le festival fait étape au Galaxy de Cognac pour la projection du film Un vent de liberté à 20h30. Là aussi, hein, il y a un site, un lien que vous allez trouver à nos pages d'émission franceinter.fr. Et également notre page Facebook. Comme j'ai parlé de Charente, nous serons ensuite dans la Haute-Vienne et puis en avril, je rappelle la Dordogne, l'Aude, l'Ariège, la Haute-Garonne,